Voilà, eh bien, ça fait chaud au cœur de se retrouver, de vous retrouver ce matin, après un temps de vadrouille. La dernière fois que j'étais là, c'était pour prêcher. Et ce matin, je suis de nouveau là pour prêcher. Vous allez me dire, je me plains pas, hein, j'aime bien cela. Même si parfois on aime bien souffler aussi. Quelques mots, juste des dernières réunions que j'ai pu vivre. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ni tout vous relater en long et en large, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements que j'ai pu vivre. Simplement quelques flashs. J'ai eu l'occasion d'aller, il y a 3 semaines de cela, c'était pour le week-end de Pâques, chez le gendre de Claude et de Denise, pour un temps d'évangélisation en Vendée. Et j'ai été réjoui de découvrir la vigueur, la vitalité qu'il y a dans les églises de Vendée. Vous savez que c'est une région de France où il y a peu d'églises évangéliques. Vous avez des chrétiens qui vont faire 50, 60, 70 kilomètres le dimanche matin ou en semaine, tout simplement pour pouvoir se rendre à une église évangélique. Et nous autres, en Alsace, on se dit, mince, alors on est vernis. Et encore, on ose se plaindre parce que parfois, ce n'est pas à notre goût ou il n'y a pas forcément ce que nous souhaiterions. Et j'ai été surpris de voir aussi la faim et la soif spirituelle qu'il y avait dans cet endroit. Et je me suis dit, eh bien, je pense que c'est important pour nous autres aussi, chrétiens alsaciens, non seulement de prier pour eux, mais peut-être de nous laisser aussi interpeller par le Saint-Esprit et de voir si Dieu n'appelle pas l'un ou l'autre à quitter une région qui est riche, qui est bénie, pour justement donner un coup de main à d'autres qui sont moins bien lotis, qui ont moins à manger, qui ont moins de possibilités aussi de pouvoir se nourrir d'un point de vue spirituel. Et en tout cas, moi, personnellement, ça m'a interpellé. Voilà, ça fait des années que j'exerce le ministère. Mais de découvrir cela, je le sais, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, mais de le revoir de nouveau, ça m'a interpellé. On a vécu vraiment un chouette week-end. Il y a plusieurs personnes qui ont répondu aux appels. Notamment, ce qui m'a beaucoup réjoui aussi, c'est de voir un homme d'une 60aine d'années qui est en fin de carrière, un homme qui a fait une belle carrière et qui a un don de magnétiseur et qui le met au service des gens depuis plusieurs années déjà, et qui souhaitait pendant son temps de retraite développer ce don, et de voir cet homme qui est venu, a entendu le message de l'Évangile, et ça a remué en lui le dimanche matin comme pas possible. Je l'ai eu en entretien, et puis ensuite il est resté l'après-midi pour le temps de conférence que je donnais sur mon livre, et puis après le temps de conférence, j'ai de nouveau eu en entretien, et là il a décidé qu'il voulait suivre le Christ. Et il a compris aussi que c'était incompatible d'être à la fois chrétien et puis en même temps magnétiseur. Et il a décidé de renoncer à tous ses dons, de renoncer à ses pouvoirs. Et nous avons prié pour lui. C'était vraiment un temps chouette et fort aussi d'un point de vue spirituel. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Je tenais à le mentionner, à rendre gloire au Seigneur parce que c'est son œuvre. Et puis c'est aussi l'église locale qui est là pour témoigner, pour entourer, pour suivre les gens. Et c'est beau de voir aussi le ministère qu'a cet homme avec... ce jeune pasteur avec tous ses collaborateurs. Autre temps fort aussi, c'était la semaine dernière, ou il y a 15 jours plutôt, où j'ai eu l'occasion de me rendre à Yaoundé, au Cameroun. C'était la première fois que je découvrais ce pays. Alors, que je découvrais, c'est un grand mot, hein, que j'allais dans ce pays. Nous avons eu le Forum des évangélistes. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Forum des évangélistes, c'est une coalition qui a pour objectif d'encourager, de former, de motiver, de renouveler tous ceux qui ont à cœur l'évangélisation et plus précisément qui ont un ministère d'annonce de l'évangile que nous pourrions appeler d'évangélistes. Ce qui est beau, c'est que ce sont nos frères et sœurs camerounais qui ont tout organisé. Nous, on ne peut pas les aider financièrement. Chaque forum qui est organisé doit être organisé par les locaux. Les gens sont autonomes, c'est à eux de trouver le budget, c'est à eux de mobiliser. On a eu une délégation qui est venue de Côte d'Ivoire avec mon ami le prophète Marcel Conan qui était là. On a eu une délégation centrafricaine aussi qui était présente. Et d'ailleurs, ils nous ont beaucoup touchés parce que avec mon collègue à l'instant, qui est aussi mon mentor, on a pris le temps de discuter avec eux, de les interviewer. On a réalisé quelques petits clips vidéo et on avait vraiment les leaders du pays qui sont venus. Et moi, ça m'a touché de voir qu'un des grands leaders du pays, qui est un homme qui est connu, qui, est, qui œuvre aussi maintenant pour la restauration. Un homme aussi qui a beaucoup souffert avec sa famille, puisque sa famille a dû s'exiler au Burkina Faso à cause des problèmes. Il y avait là des pasteurs qui étaient présents, leurs femmes, certaines femmes ont été violées, il y a des enfants qui ont été tués. Ils ont vécu et continuent de vivre des situations très difficiles, et pourtant ils sont venus à ce forum, et par leur manière d'être, par les enseignements qu'ils nous ont communiqués, ils nous ont scotchés. Et moi personnellement, j'étais scotché, surtout lorsqu'ils nous ont raconté ce qu'ils ont vécu, à savoir tous ces problèmes. Et ils disent, les médias internationaux disent que ce sont les musulmans qui sont responsables de tout ça, et on veut leur faire porter le chapeau. Et ils nous disent, sur place, la situation est bien plus compliquée et bien moins simple que cela. Nous autres chrétiens, on a pris un temps, comme le disait Michel Varton, parce qu'il les a rencontrés après tous ces problèmes aussi. Nous autres chrétiens, nous avons pris un temps pour prier, pour rechercher la face de Dieu, la pensée de Dieu, et nous sommes arrivés à la conclusion suivante, que si tous ces malheurs se sont abattus sur notre pays et si l'Église du Christ a tant souffert, c'est parce que nos églises sont pleines, il y a des chrétiens qui viennent, mais des gens qui ne vivent pas l'Évangile, des gens qui n'aiment pas, des gens qui ne pardonnent pas, des gens qui ne vivent pas avec le Christ, des gens qui font profession de suivre le Christ, mais leur vie montre tout autre chose, et nous pensons que c'est Dieu qui nous a envoyé ce jugement. Moi, je ne me serais jamais permis de penser une telle chose, et encore moins de dire une telle chose. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Et le fait que ses frères et sœurs disent cela, ça nous a vraiment touchés et interpellés. L'Église est en train de changer, le corps de Christ est en train d'évoluer, et c'est beau de voir ce que le Seigneur fait, malgré les difficultés qui sont encore présentes. Et ce frère de Centrafrique que nous avons interviewé souffrait, entre autres, au moment où nous étions là, d'une grave crise de paludisme qui lui tape vraiment sur la tête, mais il a quand même fait le voyage, des centaines de kilomètres, dans des conditions difficiles, pour venir assister à ce forum. Nous avons vécu un temps extraordinaire. Enfin, c'était aussi un temps qui était intense, puisqu'habituellement, lors d'un forum des évangélistes, vendredi, samedi, dimanche, il y a 3 ou 4 plénières. Et là, nos frères et sœurs africains nous avaient prévu, 8, 16, 24, 24 plénières en 3 jours. 8 plénières par jour. Vous imaginez? 8 fois 1 heure d'enseignement, 4 heures d'enseignement le matin, 4 heures l'après-midi, et rebelote le lendemain avec une chaleur qui avoisinait les 32-33 degrés. Pratiquement pas de ventilation. C'était chaud, quoi. Heureusement, il y avait beaucoup d'intervenants qui étaient présents. Alain est intervenu, moi-même aussi. Et puis surtout, on a eu beaucoup d'Africains, y compris des mamans aussi, qui ont parlé. C'était vraiment chouette. Vous avez leurs salutations, et je vous en dirai plus peut-être une autre fois. Voilà, ce matin, eh bien, j'aimerais poursuivre un petit peu dans la lignée de ce que Christian nous a dit tout à l'heure, à savoir que Dieu fait toutes choses belles en son temps, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. L'histoire se déroule le 17 janvier 1990, âgé de 15 ans, un jeune homme traverse les voies de la gare de Trappes et se fait happer par un train. Et son ami qui l'accompagne est tué sur le coup. À l'hôpital, le jeune homme apprend qu'il a perdu pour toujours l'usage de son bras droit. En quelques secondes, la vie de Jamel Debbouze vient de basculer. Plus proche de nous, c'était jeudi soir, la petite Bérénice, 7 ans et demi, qui habite le village de Sancy, disparaissait alors qu'elle jouait avec son vélo tout près de chez elle. En l'espace de quelques minutes, la vie de cette petite fille, de ses parents, des 350 habitants de son village, basculaient aussi, et le cœur de toutes les mamans, de tous les papas de France, était rempli d'émotions et se demandait comment l'histoire allait continuer. Et Dieu merci, vous avez écouté les infos comme moi. Vous le savez, l'histoire s'est bien terminée puisque le kidnappeur a déposé la petite fille et qu'apparemment, il n'y a rien qui a été fait sur elle. L'histoire de Jamel, l'histoire de Bérénice nous rappelle que chaque jour, la vie d'hommes et de femmes bascule. Et hier soir, ou plutôt hier matin, malheureusement, c'était aussi le cas à Katmandou, où vous avez la vie de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes qui soudainement, alors qu'ils ne s'y attendaient absolument pas, a basculé. Accident de voiture, annonce d'une maladie par votre médecin, séparation, décès, licenciement, mais aussi des événements plus heureux, Dieu merci, mariage, et la saison revient, naissance, embauche, réussite scolaire, la vie de personne bascule soudainement. D'ailleurs, vous avez même une émission télévisée qui s'intitule « Le jour où tout a basculé », émission que j'ai pu découvrir cette semaine, qui relate des histoires vraies d'hommes et de femmes qui, en très peu de temps, dans leur vie, tout a basculé pour le meilleur ou pour le pire. Le jour où tout a basculé, ce sera là le thème de mon message ce matin. Et j'aimerais lire un passage de la Bible avec vous qui nous montre comment, eh bien, la vie d'un homme, d'une femme, peut basculer très rapidement. Et là, il s'agit de la vie d'un petit garçon de 5 ans qui, alors qu'il n'attend rien, ne souhaite rien, ne demande rien, soudainement va basculer. Et vous trouvez ça dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, au chapitre 9, 2 Samuel, chapitre 9. De Samuel, chapitre 9. On connaît bien l'histoire de David et Goliath, n'est-ce pas? David et Bathsheba aussi. Par contre, David et Méphibosheth, une histoire qu'on connaît parfois un petit peu mieux. On va lire tout le chapitre. Moins. Merci. C'est bien, vous suivez pour l'instant. On verra si dans une demi-heure c'est encore le cas. Voilà que David demande un jour, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien ?» Quel micro est-ce que j'utilise? Ah, il n'est même pas allumé. Oui, j'en ai pas besoin finalement. J'étais un petit peu perturbé ce matin parce que normalement je devais utiliser ma tablette et puis la Wi-Fi ne marchait pas chez moi. Puis j'arrive ici, elle ne marche pas non plus. Heureusement que j'avais mon ordinateur. Alors, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un nommé de Siba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, « Es-tu de Siba ?» Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé, ou comme vous l'avez peut-être dans votre traduction, perclus des deux jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il ?» Et Siba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel à Lodébar. » Verset 5. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel à Lodébar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, « Méphibosheth ». Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth se prosterna et dit, « Qui suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute ta famille. Tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton serviteur, mangera constamment à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs, ça fait du monde. » Il dit au roi, « Ton serviteur fera donc tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Méphibosheth mangea donc à la table de David, comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mica, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des deux pieds. Vous savez que la tendance actuelle au niveau des prénoms est à l'originalité. Eh bien, si vous cherchez un prénom original que personne ne porte, vous venez d'en trouver un ce matin, Méphibosheth. Et en plus, je vous ferai remarquer que c'est bien plus facile à prononcer que certains prénoms qu'on nous propose aujourd'hui. Dernièrement, j'ai entendu pour une petite fille le prénom Gwen Gwyn. Imaginez 30 ou 50 fois par jour... Gwen Gwyn vient ici, hein, à la fin de la journée, vous avez la mâchoire qui est complètement déformé. Hein, vous ne savez plus comment vous vous appelez. Donc Mephibosheth, c'est un petit peu plus simple. Maintenant, est-ce que c'est tendance? C'est une autre question. Alors, quelle est l'histoire de cet homme? Qu'est-ce qui a fait basculer son existence, puisque le thème du message est « Le jour où tout a basculé ». Mephibosheth, certains d'entre vous connaissez son histoire, est issu d'une lignée royale, puisque son grand-père est Saül, roi que Dieu a rejeté et qui continue, qui s'entête et qui continue de vouloir exercer malgré cela eh bien, sa royauté, il s'accroche à son pouvoir. C'est aussi lui, Saül, qui à plusieurs reprises a cherché à faire assassiner David parce qu'il lui vouait une haine farouche. Et puis le père de Mephibosheth était le meilleur ami de David, celui que David considérait comme son propre frère, c'est-à-dire Jonathan. À l'âge de 5 ans, Mephibosheth vit un drame. Son grand-père, Saül, se donne la mort en se jetant sur son épée. Le corps de Saül va être mutilé, va être exposé aux portes de la ville pour bien mettre en avant la honte et la défaite et maintenant la victoire des autres. Ses deux oncles meurent au combat et son père, Jonathan, lui aussi, va mourir au combat. Et suite à leur décès, eh bien, la nouvelle va commencer à se communiquer très rapidement dans le pays. Et la nourrice qui s'occupe de Mephibosheth va entendre cette nouvelle. J'imagine qu'elle va se dire, mais le petit, on va le massacrer. Immédiatement, il faut que j'aille dans un endroit sûr, que je quitte l'endroit où je me trouve. Et dans sa précipitation, elle va laisser tomber l'enfant. Et celui-ci restera handicapé jusqu'à la fin de sa vie. Il sera estropié, ou comme vous l'avez peut-être dans votre traduction, perclus des pieds. Alors à cette époque, vous savez comment c'est un petit peu comme j'ai pu le voir en Haïti ou alors en Afrique ou dans certains pays où j'ai l'occasion de voyager, il n'y avait pas de possibilité d'opérer ce genre de handicap. Quand vous étiez handicapé, eh bien c'était jusqu'à la fin de votre vie, personne ne pouvait plus rien faire pour vous. En plus, imaginez un petit peu, être handicapé était souvent considéré comme une malédiction. Et aujourd'hui, vous allez dans certains pays, quand vous avez des personnes qui sont handicapées, c'est considéré comme une malédiction. Il y a quelque chose, il y a un interdit sur ta vie ou sur ta famille, et c'est pour ça que tu te retrouves dans cette situation. En l'espace d'une journée, sans que Mephibosheth n'ait rien recherché, sans qu'il n'y soit pour rien, la vie de ce jeune enfant va basculer. Plus rien, désormais, ne sera comme auparavant. Alors nous autres, on cherche souvent des réponses à tout, on aime bien avoir des questions, on a souvent beaucoup de questions, des réponses c'est autre chose, on cherche aussi toujours des responsables, on cherche toujours des relations de cause à effet, et lorsqu'on lit l'histoire de Mephibosheth et qu'on se rend compte qu'en une seule journée, toute sa vie a basculé, on se dit mince alors, comme je le disais tout à l'heure par rapport à certaines personnes qui vont avoir toute une interprétation autour du handicap ou des malheurs qui peuvent nous arriver dans la vie, eh bien cette famille est maudite. Que s'est-il passé? Pourquoi la situation est-elle ainsi? On se dit, dans le jeu des sept familles, j'aimerais la famille pas de bol. Et le petit-fils, le dernier qui reste, Mephibosheth, le seul descendant de sa famille à rester, puisque par la suite, tous les membres de sa famille, comme c'était le cas en cette époque, ou à cette époque, pour des raisons qu'on comprend tout à fait, qui sont surtout et avant tout des raisons politiques, on exterminait tout le monde, comme ça on était sûr que personne par la suite ne viendrait et n'essaierait de prendre ou de revendiquer un jour le pouvoir. C'était chaud. Même le nom qu'il porte souligne sa honte, puisque le nom de Mephibosheth signifie « celui qui répand la honte ». Et ce qui est intéressant, et ce qui est probable, en tout cas, comme certains commentateurs le pensent, Mephibosheth n'est peut-être pas son nom original. Et effectivement, quand vous lisez les généalogies, et particulièrement la généalogie qui se trouve dans 1 Chronique, au chapitre 8 et au verset 34, il nous est dit que Jonathan eut pour fils Méribal. Donc dans Chronique, il est appelé Méribal, et dans 2 Samuel, il est appelé Mephibosheth, c'est-à-dire celui qui répand la honte. Alors Méribal signifie celui qui combat Baal. Et vous savez que Baal, c'était le dieu des Cananéens. Ou autrement dit, celui, par conséquent ou par extension, celui qui est l'adversaire du mal. Donc, au départ, comme le pensent certains commentateurs, mais vous savez comment c'est, tout est une question d'interprétation et tous ne sont pas forcément toujours d'accord entre eux, mais certains pensent qu'au départ, son nom avait peut-être quelque chose de positif. Son nom avait quelque chose de positif, mais à partir du moment où son grand-père est mort, où son père est mort, où ses oncles sont morts, où tout a basculé en une seule journée, eh bien, quelqu'un aurait peut-être changé son nom. Et celui qui devait combattre le mal va devenir maintenant celui qui répand la honte autour de lui. Désormais, il est le petit-fils de la honte. Imaginez un petit peu la situation. Chaque fois que quelqu'un le voit, tout en lui, que ce soit dans son physique, que ce soit dans son nom, rappelle cette tragédie et rappelle cette honte qui désormais s'est attachée à sa vie. Son prénom est là pour lui rappeler sa situation, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez le texte biblique qui va même plus loin que cela et qui enfonce le clou avec le nom de la ville où habite Méphibosheth. Où habite-t-il ? Il habite Lodébar. Et Lodébar, c'est quoi ? Lodébar, ça signifie littéralement en hébreu « là où il n'y a pas de parole ». Là où il n'y a pas de parole. Et la parole, c'est quoi ? La parole, c'est très important parce que la parole dans la Bible, c'est au travers de la parole que Dieu a créé. Au travers de la parole, on nomme les choses. Au travers de la parole, on donne sa place aux autres. Au travers de la parole, on apporte la vie. Et quand on n'apporte pas la parole et qu'on ne dit pas une parole, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève la vie, on tue quelqu'un. Vous me suivez ? Et donc Lodébar, c'est ça, c'est un endroit où il n'y a pas de parole. Et par extension, comme le proposent certains commentateurs, eh bien c'est un endroit où il n'y a pas de pâturage. C'est un endroit où il n'y a pas de vie. Tu habites où ? Eh bien j'habite là où il n'y a pas de vie. Imaginez un petit peu. Là où il n'y a pas, eh bien, de parole. Le seul avantage avec la ville de Lodébar, c'est que c'est plus facile à prononcer que Klein-Frankenheim ou que Obersulzbach, n'est-ce pas ? Ou que certains noms de villages alsaciens qui parfois sont difficiles même pour les Alsaciens. Donc c'est le seul avantage que j'ai trouvé avec Lodébar. Lodébar, c'est un endroit stérile, infertile, c'est un endroit où il n'y a pas de fruits, où la vie est comme étouffée, où il n'y a pas d'espoir, c'est un lieu de rien du tout, pour un homme qui lui-même se considère comme un rien du tout, puisque lorsqu'il ira vers David, que dira-t-il lorsqu'il va se mettre à genoux ? Il va dire qu'il est comme un chien battu. Aujourd'hui, il aurait dit ni plus ni moins, s'il fallait transcrire cela dans le langage courant des jeunes et des moins jeunes aussi, je suis une... Ça commence par un M et ça finit par un E. Il y en a deux, trois qui sont réveillés, qui ont compris. Hein ? Donc, un homme dont l'estime personnelle était au plus bas. Il ne pouvait pas tomber plus bas que l'endroit où se trouvait cet homme. Chacun, à notre niveau, nous vivons des moments dans notre vie aussi ou en quelques jours, parfois quelques heures, quelques minutes, quelques secondes, comme c'était le cas pour Jamel, comme c'était le cas malheureusement hier pour bien des Népalais, soudainement vous avez tout qui bascule, vous avez la nouvelle qui tombe comme une sorte de couperet, cancer qui se déclare, un conflit qui éclate, un accident comme notre frère Luc cette semaine qui a eu un petit problème avec sa voiture et Dieu merci apparemment ce n'est pas grave puisqu'il est là ce matin avec le sourire. Et la voiture aussi ? Pas trop la voiture, quoi. Hein. Mais tu es là, c'est l'essentiel. Un problème financier, une souffrance, une douleur qui vous prend à cause d'un enfant, d'un ami, d'un frère, qui subitement vous tourne le dos ou tourne mal, ça arrive. Un conjoint qui quitte le foyer. Et puis certains, pour certains plutôt, comme pour Méphibosheth, vous avez une accumulation de mauvaises nouvelles qui arrivent. Et l'histoire de Méphibosheth nous parle de ces moments dans nos vies où on ne comprend pas. On est là, on commence à se poser des questions, mais on se dit, mince alors, mais qu'est-ce qui se passe ? Comme le disait ce film qui est sorti l'année dernière, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Et tout d'un coup, on se rappelle qu'il y a un Dieu qui existe et en plus que ce Dieu s'appelle le bon Dieu. Que se passe-t-il? Comment se fait-il que je me retrouve dans cette situation? Je suis pourtant quelqu'un qui aime Dieu, je suis quelqu'un de fidèle, je suis quelqu'un qui a des valeurs, je suis quelqu'un qui a toujours cherché à servir, je suis quelqu'un qui a de problèmes avec personne. Partout où je suis, je fais tout ce que je peux pour aider, pour encourager, et voilà que tout d'un coup, le malheur, sans que j'aie rien recherché, tombe sur moi. Mais voyez-vous, l'histoire de Méphibosheth nous parle aussi d'autre chose. Son histoire nous rappelle aussi l'histoire de l'homme avec un grand H. Son histoire nous parle de ce que la Bible appelle l'histoire du salut. Et l'histoire du salut, avant d'être une bonne nouvelle, et l'évangile et le salut est d'abord une bonne nouvelle, cette bonne nouvelle comprend aussi une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle est la suivante, il y a aussi une honte qui pèse sur chacune de nos vies. Et cette honte qui repose sur tout être humain, c'est la honte qui a surgi lorsque le premier couple, Adam et Ève, vous connaissez cette histoire, ça nous est relaté dans le premier livre de la Bible, Les Origines, au chapitre 3. Le premier homme, premier couple de l'histoire de l'humanité va désobéir, va se rendre compte, après avoir désobéi à Dieu, qu'ils sont nus, vont avoir honte de ce qu'ils ont fait, et pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, vous avez la crainte, vous avez la peur, vous avez la honte, vous avez tous ces sentiments qui vont se manifester et qui là ne sont pas liés à un événement pour lequel ils ne peuvent rien, comme cela peut nous arriver aujourd'hui, mais qui là va être lié directement au fait qu'ils ont voulu s'affranchir de Dieu. Et à partir de ce moment-là, eh bien la honte s'abat sur eux parce que le péché a fait son introduction dans le monde. Et c'est aussi ce que nous dit l'histoire de Méphibosheth, je crois. De manière soudaine, à travers notre condition d'être humain, et là nous n'avons rien recherché, nous n'avons rien demandé, le péché, nous le savons, le mal est présent dans notre vie, vous n'avez pas besoin d'apprendre à un enfant à faire le mal, vous avez beau le mettre dans de bonnes conditions avec des gens qui ne font que le bien autour de lui et qui donnent qu'un bon exemple, de manière instinctive, à un moment donné, il va faire le mal, il va se mettre à mordre sa sœur hein, ou son frère, hein, et vous vous dites, bah mince alors... Nous, on ne se mord pas dans la famille, quoi. D'où est-ce que ça vient, cette réaction? Donc, c'est quelque chose qui est inscrit au plus profond de nous. Et puis, le péché fait irruption dans notre vie. Et puis, après, le problème, c'est que nous allons lui laisser de la place au travers des actions et des choix que nous décidons de faire. Et là aussi, à un moment donné, tout peut basculer, puisque le péché produit tristesse. Le péché produit, je le disais la dernière fois dans un autre message, la non-vie. Le péché produit la mort, il produit la culpabilité, la honte. Il nous handicape et fait de nous, comme Méphibosheth, des estropiés, des invalides, non pas d'un point de vue physique, mais d'un point de vue spirituel. Et c'est bien plus grave encore. Et à cause de notre état de pécheur, nous répandons aussi autour de nous, d'une certaine manière, la honte. Et regardez un petit peu ce qui se passe au travers d'actions que les hommes peuvent commettre. Ils sont capables du meilleur. Mais ils sont capables aussi du pire, et chaque jour nous le constatons. Au travers d'actes qui vont être posés, ce n'est pas la vie qui va être communiquée, mais c'est la honte qui se manifeste dans la vie d'hommes et de femmes, et autour d'eux aussi. Donc, à cause de notre état, nous répandons d'une certaine manière aussi parfois la honte, et puis surtout notre état de pécheur, et le texte nous le rappelle aussi, nous éloigne de Dieu, de sa bonté, de son amour. L'être humain a beau habiter un bel appartement, une belle maison, avec les derniers gadgets à la mode, avec tout ce qu'il faut, hein, sa maison, son chez-lui, son intérieur, et le lieu, comme c'est le cas pour certaines personnes, mais pas ici à Lingolsheim ni autour, pas en Alsace, hein, surtout pas, hein, le lieu où il n'y a pas de vie, le lieu où il n'y a pas de parole. Le lieu où il n'y a rien, il habite Strasbourg, Paris, Lyon, Marseille, Gamsheim, ou que sais-je. Mais en réalité, il habite à Lodébar. Il habite là où il n'y a pas de vie, là où il n'y a pas de fruits, là où il n'y a pas d'herbe verte. Et la question que je pose ce matin, où habites-tu? Est-ce que tu habites à Lodébar, là où il n'y a pas de parole, là où il n'y a pas de vie, là où il n'y a pas de fruits, là où la vie ne se manifeste pas, là où la vie ne coule pas, ou alors est-ce que tu habites à Jérusalem? À Jérusalem, il y a l'Arche de l'Alliance. À Jérusalem, il y a le roi. Et à Jérusalem, il y a l'abondance, et nous allons le découvrir dans quelques instants. Donc l'histoire de Méphibosheth nous parle de ce jour où tout bascule, où le pire peut arriver. Mais l'histoire de cet homme nous parle aussi d'un autre jour. Un autre jour où il va y avoir un retournement de situation. Et un retournement de situation spectaculaire. Un retournement de situation extraordinaire où tout bascule, mais cette fois, tout va basculer, non pas pour le pire, mais pour le meilleur. Et voilà comment le texte commence. Voilà qu'un jour, David pose la question en 2 Samuel, au chapitre 9, verset 1. « Reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül ?» Et cette question, mes chers, arrive bien des années après que David soit devenu roi. Je n'ai pas cherché à compter depuis combien d'années David est roi. Mais ce que j'aimerais vous faire remarquer ici ce matin, c'est un petit peu le contexte. Le contexte dans lequel David va poser cette question. David est ici au zénith de sa vie. Il est là à ce qu'on pourrait appeler l'apogée de son ministère. Il est bien avant la chute qu'il va connaître avec Bathsheba, le meurtre d'Uri, et toutes les conséquences néfastes que cela va avoir pour lui et pour sa propre famille avec les divisions que vous connaissez. Il est dans une période faste de sa vie, une période où tout lui réussit, une période où il est prospère au niveau matériel. Et le texte le dit et le souligne, lisez 2 Samuel chapitre 7 et chapitre 8. Il réussit dans tout. Il a la victoire sur tous ses ennemis. Il prospère à tous les niveaux. Son territoire, qui au départ était un territoire tout petit, avec quelques milliers de mètres carrés, les historiens nous disent que son territoire est en train de s'agrandir et que désormais ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de mètres carrés qui appartiennent maintenant à Israël et plus particulièrement que David a pu conquérir. Il prospère au niveau spirituel. C'est une période, et on le voit dans les chapitres précédents, où il est sensible à la voix de Dieu. Il obéit au chapitre 7, par exemple, il nous est dit « Le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur et déclara « Qui suis-je, Seigneur, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» C'est pas beau, ça ? Seul un homme sensible, un homme qui écoute Dieu, ou une femme qui écoute Dieu, peut prononcer de telles paroles dans sa vie. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de larmoiement, il n'y a pas « oh, ça va pas, c'est ci, ça », non, ce sont des paroles positives. Mais qui suis-je ? Moi qui étais dans les champs, moi qui étais en train de garder les moutons, moi qui n'étais connu de personne, regarde maintenant Seigneur où je suis, et tout ça c'est arrivé grâce à toi. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui a un cœur, un homme qui n'est pas parfait, nous le savons, qui commet des erreurs, qui en commettra bien des erreurs, mais un homme qui fondamentalement aime le Seigneur, cherche le Seigneur et manifeste aussi de la bonté et de la reconnaissance. Et à la fin du chapitre 8, le texte dit « Le Seigneur donna donc la victoire à David partout où il alla ». Et moi, ce qui m'a interpellé en étudiant ce texte, c'est que c'est justement dans cette période faste où David va se souvenir de la promesse qu'il avait faite bien des années auparavant à son meilleur ami Jonathan. Vous connaissez cette promesse, on la trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 20, les versets 14 à 15, où il nous est dit ceci, verset 15, je cite, « Tu ne cesseras jamais d'agir avec bienveillance envers les membres de ma famille, même lorsque l'Éternel aura fait disparaître tous tes ennemis, sans exception de la surface de la terre. » Donc c'est Jonathan, si vous voulez, qui prononce cette parole et qui fait promettre à David d'être bon envers lui et envers sa descendance pour toujours. Et c'est fou, parce que c'est au moment où David est au zénith de sa vie, au meilleur, où Dieu lui a donné la victoire sur tous ses ennemis, que justement il se rappelle de cette promesse et que cette promesse surgit. Et ça nous montre quoi ? Ça nous montre simplement que Dieu est à l'œuvre. Et moi, l'attitude de David m'interpelle parce qu'il est dans une période faste Et ça me dit quoi ?
Et ça me dit comme quoi la vie chrétienne n'est pas faite uniquement de combats. La vie chrétienne n'est pas faite uniquement de luttes et de problèmes. Nous avons des luttes, n'est-ce pas ? Nous avons, vous avez et j'ai des combats. Mais il y a aussi des périodes fastes qui peuvent durer des années. Des périodes fastes qui peuvent durer même des décennies. Et dans ces périodes fastes, bénies, prospères, où tout nous réussit, où on touche quelque chose, ça vous est déjà arrivé, ça vous arrive peut-être, hein, vous touchez à quelque chose, tout ce que vous faites réussit. Vous dites, mince alors, mais je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, mais tout ce que je fais, je réussis dans tout, je prospère. Eh bien, dans ces moments-là, nous pouvons aussi être proches de Dieu. Et nous pouvons aussi être proches des autres et leur manifester notre bonté. Et les deux ne sont pas incompatibles. Ce n'est pas parce que nous prospérons et que nous réussissons que nous allons forcément nous détourner, nous éloigner du Seigneur. Nous pouvons être prospères, nous pouvons être dans une période faste de notre vie et en même temps être proches du Seigneur aussi et manifester eh bien, son amour et sa bonté autour de nous. Et c'est exactement ce que David va faire et c'est le second point que j'aimerais mentionner. Après, il en reste encore quatre. Non, ce sera le dernier. Et le texte biblique le souligne de manière très forte. Et on va voir comment est-ce que Dieu, ou plutôt David, manifeste sa bonté à trois reprises. Verset 1, verset 3 et verset 7, David dit « Je veux agir envers Méphibosheth avec fidélité ». Vous avez trois fois le terme « fidélité » qui revient ici. David ne veut pas simplement s'acquitter rapidement d'une promesse pour soulager sa conscience et dire « allez, je vais lui faire un petit peu de bien ». Non, et le mot qu'il utilise ici est très intéressant. Il souligne le fait qu'il manifeste sa fidélité. Il lui manifeste tout simplement ce que les Juifs appellent ici en hébreu, ce qu'on appelle la « recette de Dieu ». Et la recette de Dieu, c'est quoi ? C'est H-E accent aigu S-E-D. C'est un terme que vous trouvez des dizaines ou des centaines de fois dans la Bible et plus particulièrement dans l'Ancien Testament. C'est un mot, quand vous regardez les dictionnaires bibliques, vous avez des pages et des pages qui sont pondues et je vous épargne tout cela ce matin. La recette de Dieu, c'est quoi ? C'est la bonté de Dieu. C'est la compassion de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce. La recette de Dieu, c'est ce qui pousse Dieu à aller vers quelqu'un alors qu'on n'a pas envie d'aller vers cette personne et qui pousse Dieu à intervenir de manière favorable pour sauver, pour aider un être humain. C'est quelque chose qu'on a du mal à rendre tout simplement avec un seul mot aujourd'hui parce que notre langage est ce qu'il est et on n'arrive pas à rendre avec un mot ni même avec plusieurs mots la richesse de ce mot. Mais David ici, et c'est le terme qui est utilisé et un autre terme aurait pu être utilisé, manifeste la recette, c'est-à-dire la bonté qui est aussi la fidélité, la grâce de Dieu à l'égard de Méphibosheth. Et ce n'est pas par hasard si ce terme est utilisé ici. Parce que David est proche de Dieu, comme je disais tout à l'heure, il ne dit pas simplement « je vais faire un acte de bienveillance pour montrer ma grande bonté, ma grande mansuétude, aller à dîner à l'Élysée pour tous les estropiés, et puis comme ça on va trouver ça dans le journal, notre président ou le roi de tel pays a fait un acte charitable, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est extraordinaire ». Cet homme, absolument pas. Ici, c'est quelque chose où il n'y a pas de volonté politique derrière. Il y a simplement un amour, une grâce, quelque chose de profond qui se dégage de la vie de David, justement parce qu'il est dans une période faste de sa vie et parce qu'il est dans une période aussi où il est proche de Dieu. Et David va faire trois choses pour lui. Trois choses que Dieu fait aussi pour nous lorsqu'il décide de nous manifester sa bonté quand tout a basculé dans notre vie, que nous soyons ou non responsables. Les premières choses que David va faire pour Méphibosheth, c'est quoi ? Il va d'abord le rassurer. Il va le rassurer au verset 5, alors que Méphibosheth arrive de Lodébar, donc arrive d'un endroit sans parole, arrive d'un endroit sans vie, pour aller à Jérusalem. Imaginez, on vient le chercher, il va faire 70 kilomètres. Comment a-t-il vécu, comment a-t-il fait ces 70 kilomètres ? Comment est-ce que vous les auriez fait, vous ? La boule au ventre, hein ? Vous dites, mince alors, ce soir c'est terminé, la tête, ou alors je passe au fil de l'épée. Que va-t-il me dire ? Je porte la honte, mais là, ça va être la honte qui va être répandue et qui va se manifester dans tout Israël parce que tout le monde va le savoir. Comment a-t-il fait ces 70 kilomètres? On ne le sait pas. Mais en tout cas, l'attitude de Méphibosheth lorsqu'il arrive au palais nous montre qu'il est dans ses petits souliers, qu'il est complètement découragé, qu'il est complètement abattu, qu'il est dans une crainte forte, puisque la première des choses que David va lui dire, David va prononcer son nom, il va dire Méphibosheth. Et quand il prononce son nom, c'est comme s'il n'avait pas de parole. Vous voyez, avant, il n'y avait pas de parole. Et là, justement, c'est la parole qui va être dite. Et pour le juif, prononcer le nom de quelqu'un, c'est le reconnaître, c'est l'appeler. C'est lui dire, tu as de la considération pour moi, tu n'es pas une merde, mais tu es quelqu'un, je t'appelle par ton nom, comme Dieu nous appelle par notre nom. Et donc le fait qu'il dise cela, Méphibosheth, ça a dû le toucher intérieurement, mais ce n'était pas suffisant puisqu'il va se mettre à terre deux fois, et parce qu'il dira à un même moment donné, je suis là comme un chien crevé. Et Méphibosheth a besoin d'être rassuré, a besoin que David lui dise « n'aie pas peur » parce que celui qui a peur n'est pas en mesure d'aller vers les autres. Celui qui a peur, il est là, il est tétanisé, il ne sait plus comment faire, il ne sait plus comment agir, il a l'impression de n'être plus rien. « N'aie pas peur », c'est une parole que vous trouvez, selon certains commentateurs, paraît-il, je n'ai pas vérifié, 365 fois dans la Bible. Si cet après-midi, vous ne savez pas quoi faire, eh bien vous n'avez qu'à chercher toutes les occurrences du mot « n'aie pas peur » et vous me direz si c'est vrai. Hein? « N'aie pas peur » 365 fois. Et certains ont dit une parole, un « n'aie pas peur » pour chaque jour de la semaine et chaque jour de l'année. Et il y en a besoin qui ont besoin, il y en a certains plutôt qui ont besoin d'entendre cela. Une des premières paroles que Dieu prononce lorsqu'il nous manifeste sa bonté, sa recette, eh bien c'est justement cela, quand tout bascule dans notre vie, que ce soit à cause de notre faute ou tout simplement à cause des circonstances de la vie, ou par la faute des autres aussi, ça peut arriver, eh bien Dieu s'approche de nous, il nous appelle par notre nom et il nous dit « n'aie pas peur, je veux te manifester ma fidélité ». Et voyez-vous, quand Dieu nous dit « n'aie pas peur », c'est pas comme quand nous disons à quelqu'un « t'en fais pas ». Ça va aller. Nous nous disons ça les uns les autres. Hein. Moi, je dis cela. Quand quelqu'un me fait part de ses soucis ou quand je vois, surtout des gens proches, vous allez dire, allez, confiance, n'aie pas peur, ça va aller. On le fait avec notre cœur. Parfois, on est dépourvu de mots. On ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas comment se comporter. On se sent petit, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut faire pour encourager plus l'autre personne. Et donc, on va prononcer cela. On sait que c'est une parole qui peut-être va trouver un écho ou ne trouvera pas d'écho dans la vie de quelqu'un. Parfois, ça trouve un écho. Mais quand c'est Dieu qui nous dit « n'aie pas peur », il n'est pas en train de nous dire « allez, ça va aller ». Inch'Allah, à la grâce de Dieu, on verra. Hein. Peut-être que tu glisses sur la peau de banane ou peut-être que tu ne glisseras pas. Quoi, hein. Non, quand Dieu nous dit « n'aie pas peur », ça veut dire « je suis avec toi ». Je t'appelle par ton nom, je sais ce que tu vis, je t'accompagne dans ton cheminement, je suis présent, je suis là à tes côtés. Et je vais me manifester. Seconde chose que David fait pour le fils de Jonathan, c'est de le réhabiliter. Verset 7. Toutes les terres de ton ancêtre Saül sont désormais pour toi. Et au verset 9, tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison, je le donne, dira-t-il, au fils de ton maître. Tu travailleras la terre pour lui, toi, tes fils, tes serviteurs, etc. Eh bien, mes chers, ce n'est pas une réhabilitation, ça. Du jour au lendemain, Méphibosheth se retrouve avec 36 personnes à sa disposition. Ça vous dirait, ça, mesdames, à la maison, hein? 36 personnes à votre disposition du jour au lendemain. Et tout ça aux frais de la princesse. Hein? Vous ne payez rien. Là, il y en a qui réfléchissent, qui disent, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire faire, hein? Parce que 36 personnes, ça fait du monde. Hein. Mais Christian, il sait comment les employer. Hein. Je suis sûr que si je lui demande tout à l'heure, il a trouvé une place pour chacun. Il est habitué à manager les gens. Il y a dans cette restitution une pointe d'humour et en même temps un clin d'œil extraordinaire de Dieu. Comme le soulignent plusieurs personnes qui ont étudié en profondeur ce texte et dont je me suis inspiré, il y a là une pointe d'humour et en même temps un clin d'œil extraordinaire, parce que le verbe que nos traductions rendent par « je te restituerai ». ou je restituerai, a des consonnes qui sont communes avec le nom de Mephibosheth. Et il y a là un jeu de mots. Et il y a là une pointe d'humour. Et vous savez que les Juifs sont les champions pour les jeux de mots et les champions aussi pour les pointes d'humour. Un jeu de mots qui est proposé ici à travers « Je restituerai » et « Mephibosheth » qui est en train de dire « Eh bien maintenant je vais changer ta condition antérieure, je vais te rétablir dans la position qui est vraiment la tienne. Tu es celui qui ne répandra plus la honte, je vais restituer maintenant tous tes biens. » Et derrière cet acte de bonté, il y a plus que simplement le geste d'un homme. Il y a aussi Dieu qui est à l'œuvre, puisque aux deux extrémités ou aux deux bouts de ce mot, hein, « je te restituerai » de ce verbe, vous retrouvez en hébreu, comme le soulignent les spécialistes juifs, les commentaires juifs, hein, comme ils le soulignent, vous retrouvez le nom de Dieu, ou plutôt l'abréviation du nom de Dieu, et Dieu se dit dans l'Ancien Testament « Yahweh ». Et donc vous trouvez ça au début du mot et à la fin du mot. Et au travers de cela, l'auteur biblique montre quoi ? Celui qui a écrit ce texte est en train de montrer quoi ? Il est en train de dire et de nous dire et de vous dire et de me dire ce matin que derrière cet acte de bonté extraordinaire que David est en train de manifester, en réalité Dieu est présent. C'est Dieu qui a inspiré cet acte de bonté. C'est Dieu qui est en train de dérouler son plan, c'est Dieu qui est en train d'écrire son histoire dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire de Mephibosheth, que Dieu n'a pas oublié cet homme qui vit à Lodébar, à Sans Parole, là où il n'y a pas de pâturage, que Dieu est bel et bien présent dans sa vie. Eh bien, Dieu est celui qui nous fait passer aussi de la honte au déshonneur, de l'humiliation à la dignité. Il nous fait passer tout cela grâce à la personne du Christ. Il est celui qui réhabilite, celui qui nous restaure ce que l'ennemi nous a volé. Celui qui restaure et qui nous redonne ce que les sauterelles aussi, comme nous dirons le prophète, hein, ont pu ravager, ont pu manger. Il est celui qui nous rétablit dans notre dignité d'être humain. Quel que soit l'handicap ou le non-handicap que nous avons, parce que Mephibosheth ne sera pas guéri. Il restera estropié jusqu'à la fin de sa vie, mais malgré son handicap, il sera pleinement réhabilité, changé, transformé et métamorphosé. Ça s'appelle la grâce de Dieu, et vous avez le droit de dire amen si vous êtes encore avec moi. Et puis la troisième et dernière chose que David fait, c'est de le faire asseoir à sa table. Vous retrouvez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quatre fois l'expression manger ou prendre ses repas à la table du roi. Pourquoi est-ce que l'auteur mentionne en un seul chapitre quatre fois cette expression avec la précision, à trois reprises, il dira quoi ? Pour toujours. Est-ce que c'est par hasard ? Est-ce que celui qui a copié cela, hein, ou qui a écrit cela s'est dit « Ah bah tiens, il était en mal d'inspiration, on va le redire une deuxième fois, peut-être qu'ils ne comprennent pas bien, pour tous les Alsaciens hein ?» Non, absolument pas. Si l'auteur biblique le mentionne trois fois, ou plutôt quatre fois, avec trois fois la précision pour toujours, c'est que cela a son importance. Et manger à la table du roi, en ce temps, comme aujourd'hui, c'est pas rien. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je mange aux tables alsaciennes, c'est déjà pas mal. Hein. Et aux tables françaises, nous avons la meilleure gastronomie au monde, paraît-il, dont on n'est pas peu fier. Vous avez le droit de dire amen aussi, hein, pour ces choses-là. Hein. Ça fait partie, voilà, cocorico. Imaginez la scène, tous les jours à la table du roi. Donc il y a le roi, il y a David qui est là. Il y a Amon qui est là. Il y a Absalom, il y a Tamar, magnifique Tamar. Hein. Il y a tous les enfants du roi qui sont là. Qui sont tous, nous précise le texte biblique dans 1 Samuel au chapitre 8, ils sont tous des ministres. Ils sont là, vêtus dans leurs plus beaux habits, resplendissants. Et alors qu'ils sont là, vous avez celui qui répand la honte, qui arrive et qui s'assoit avec eux à table. Et qui désormais peut siéger, peut manger à cette table jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'est extraordinaire. Ça arrive à peu de personnes. En décembre 2014, plutôt, j'ai lu que François Hollande avait invité à sa table, à l'Élysée, plusieurs Français qu'il a tirés au sort. Enfin, il a quand même choisi des... les socialistes, hein, j'ai lu. Mais, donc voilà, hein, c'était pas vraiment au sort, mais il a choisi quand même dans ses rangs et il les a invités à venir faire un gueuleton à l'Élysée. Et paraît-il, c'était extraordinaire. Donc les cuisines de l'Élysée, c'est pas rien. Hein, c'est 500 mètres carrés, c'est le meilleur ouvrier de France, c'est 25 cuisiniers qui sont là jour et nuit pour vous faire tout ce que vous voulez pour le président, pour tous ses hôtes. Hein, ils sont là pour travailler les meilleurs produits du terroir français. 13 000 bouteilles, la cave. Hein. C'est sympa, quoi. Hein. Ah, j'ai fait ma petite enquête, là. Hein. Depuis, je prie pour ça. Non, non. Imaginez manger tous les jours à l'Élysée. Enfin, bon, si on n'est pas d'accord avec les idées, c'est à la longue, ça risque quand même de... On risque de mal avaler. Mais... À travers cette histoire, l'auteur biblique nous dit simplement que c'est Dieu lui-même qui nous invite à manger à sa table. Et quand Dieu nous manifeste sa bonté, il nous dit désormais, tu manges à ma table, fini l'eau des bars, fini les repas au McDo, au Resto U, à la cantine, tout ça c'est terminé. Et en disant que nous mangeons à la table du roi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous accueille chez lui. Ça veut dire qu'il nous réhabilite, il nous dit « n'aie pas peur », ça veut dire « je te donne mon pardon », ça veut dire que tu as la possibilité de t'approcher de moi et de venir librement devant moi autant de fois que tu veux, matin, midi, soir, tu peux même venir pour les goûter, tu peux même venir pour le cinquième si tu as faim. Bon, après, te plains pas si tu as de la brioche, quoi. Hein. Mais il y a cette possibilité de s'approcher. Dieu est en train de dire ici, au travers de cet épisode, parce qu'on voit que c'est lui qui est présent derrière, il est en train tout simplement de dire que le temps des vaches maigres à l'eau des barres, c'est terminé. C'est le temps de l'opulence, c'est le temps de l'abondance, c'est le temps de la grâce et c'est le temps, disons-le aussi, de la richesse. Et grâce à la bonté de Dieu, à la bonté de David, hein, la vie de Méphibosheth a basculé, a pris une tournure toute nouvelle. Dieu dissipe la honte de sa vie et on peut même retrouver cela dans son nom. Alors, j'espère que vous n'allez pas vous perdre, mais tout à l'heure, je vous ai dit que Méphibosheth, ça veut dire celui qui porte la honte. Mais en fonction de la manière dont vous allez lire le nom de Méphibosheth, puisque chaque syllabe a une signification précise en hébreu, comme le font remarquer certains commentateurs, le « fi » de Méphibosheth vient de la racine qui souffle. Et par conséquent, certains disent que Méphibosheth, ce n'est pas simplement celui eh bien, qui transmet la honte, mais que désormais, Méphibosheth est celui qui souffle sur la honte. C'est pas beau, ça? Désormais, c'est celui qui maintenant va souffler sur la honte, sur ces années noires terribles qu'il a vécues, celui qui souffle sur son passé, celui qui souffle sur ses blessures. Et il peut souffler sur son passé, il peut souffler sur ses blessures. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu a fait irruption dans sa vie. Et parce que David, qui représente notre grand roi, c'est-à-dire le Christ, manifeste sa bonté eh bien, dans la vie de cet homme. Et par là même, nous avons une image de Dieu qui manifeste aussi la bonté de Dieu dans notre vie. Et si aujourd'hui Dieu peut manifester sa bonté dans notre vie, c'est tout simplement parce qu'il y a 2000 ans de cela, le Christ a pris sur lui notre honte. Eh oui. Si Dieu peut nous manifester sa recette, c'est-à-dire sa bonté, sa grâce, ce n'est pas parce qu'en nous-mêmes nous sommes aimables, plus que d'autres, ou que nous sommes plus sympathiques, ou qu'il préfère les Alsaciens, ou alors les Franc-Comtois, ou que sais-je, à d'autres peuples, ou à d'autres tribus, ou à d'autres races, ou aux Camerounais, ou que sais-je. Mais c'est parce que le Christ, il y a 2000 ans, par son sacrifice sur la croix, et le prophète Ésaïe le dit, il est devenu pour nous malédiction. Il a pris sur lui notre honte, il a pris sur lui notre culpabilité, il a pris sur lui nos souffrances. Pour que aujourd'hui nous puissions passer et souffler dessus. Et celui qui souffle sur notre honte, celui qui enlève notre culpabilité, que ce soit par rapport au péché ou par rapport à des événements douloureux que nous pouvons vivre ou tout d'un coup bascule, et celui qui vient à notre secours de manière souveraine et gracieuse en manifestant sa bonté, c'est le Christ. C'est le Christ parce qu'il est mort pour nous et qu'il a pris sur lui notre culpabilité, notre honte, il va pouvoir passer comme David, eh bien, et passer dans la vie de Méphibosheth et manifester sa bonté. Je conclue avec cette question que le texte pose et que j'aimerais vous laisser simplement vous poser ce matin. Y a-t-il quelqu'un à qui je puisse faire du bien? Y a-t-il quelqu'un à qui je puisse faire du bien? C'est la question que Dieu nous pose et c'est la question que Dieu vous pose aussi. Y a-t-il quelqu'un dont la vie a basculé? Quelqu'un qui se dit « tout va de travers de ma vie ». Quelqu'un qui se dit « je ne comprends pas ce qui se passe ». Quelqu'un qui se dit « moi je vis à l'eau des barres, je vis dans un lieu sans parole, je vis dans un lieu où il n'y a pas de vie, je vis dans un lieu où il n'y a pas de vert pâturage, où c'est constamment les galères, où c'est constamment la souffrance, où c'est constamment coup sur coup. Y a-t-il quelqu'un qui vit là-bas et Dieu dit « eh bien moi je vais chercher cette personne-là et je vais lui manifester sa bonté. J'ai simplement à me laisser conduire eh bien, par le serviteur qui vient et qui m'amène au trône de la grâce ». Et il y a là aussi un message pour nous autres qui connaissons déjà la foi, qui ne sommes pas forcément dans un moment où il y a quelque chose qui a basculé dans notre vie, soit que nous n'y pouvons rien, ou à cause d'une faute ou d'un péché. Il y a aussi là un message pour nous autres chrétiens, et ce message est tout simple. En tant que chrétiens, nous pouvons tous les jours nous approcher à la table du roi. Nous avons simplement à y aller, et nous pouvons y aller tel que nous sommes. C'est comme chez McDo, et c'est mieux que chez McDo. Hein, parce qu'on y va tel que je suis, mais le repas, c'est autre chose. Et donc, on peut y aller autant de fois qu'on veut. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et c'est le message que l'auteur biblique a voulu communiquer il y a 3000 ans et que Dieu nous communique aussi ce matin. Y a-t-il quelqu'un à qui je puisse manifester ma bonté? Et la bonté de Dieu est pour tout le monde. Elle est pour moi, elle est pour vous, elle est pour celles et ceux qui vous entourent. Et chaque jour, vous avez cette possibilité de vous approcher à la table du roi. Je vous invite à vous lever. Je vais juste encore prier pour vous ce matin. Dieu fait toutes choses belles en son temps, et Christian nous l'a rappelé au travers de son introduction tout à l'heure. Toutes choses belles en son temps. Et peut-être qu'aujourd'hui, et peut-être que ce matin de manière particulière, C'est le temps où Dieu souhaite manifester sa bonté dans votre vie. C'est le temps où, de manière souveraine, le Seigneur agit et réveille votre conscience et vous dit « Mais tu es mon enfant, pourquoi est-ce que tu ne viens pas à ma table ?» Quitte l'eau des barres, quitte cet endroit sans parole, quitte cet endroit sans vie. Pars de cet endroit. Cet endroit te tue, cet endroit te ronge, cet endroit est mauvais pour toi. Quitte cet endroit et viens simplement à Jérusalem. Et là, mange à la table du roi et laisse simplement le roi agir dans ta vie. Tu n'as rien à faire, tu as simplement à venir à t'asseoir. C'est la seule chose que tu as besoin de faire. Je ne propose aucune démarche, la seule démarche que le Seigneur nous propose, et c'est extraordinaire. Et c'est ça la recette, c'est ça la bonté, c'est ça la compassion, c'est ça l'amour de Dieu. Simplement venir et s'approcher à la table du roi et laisser le roi vous restaurer. Alors j'aimerais vous laisser quelques instants ce matin pour pouvoir vous adresser à Dieu dans votre cœur. Et si vous aussi, il y a un moment où ça a basculé dans votre vie pour X raisons, que ce soit cette semaine, aujourd'hui même, ou peut-être dans les semaines qui ont précédé, ce matin, voilà, approchez-vous simplement de la table du roi. Dans votre cœur, vous venez avec le peu de force, le peu d'énergie que vous avez, vous dites simplement, eh bien, Seigneur, je m'approche à ta table. Je ne suis pas digne de cette table. Il y a peut-être du péché dans ma vie, dans ce cas-là, confessez-le au Seigneur. Peut-être qu'il n'y a rien du tout, simplement des circonstances qui sont difficiles. Eh bien, vous venez devant lui, vous asseyez simplement à sa table et vous priez dans votre cœur et vous dites, je m'approche de toi, Seigneur. Je veux manger à ta table, je veux recevoir cette bonté, cette compassion, cet amour dans ma vie. Viens maintenant, approche-toi de moi. Seigneur, tu as entendu dans le cœur, et tu entends peut-être encore maintenant aussi, dans le cœur des uns et des autres, cette prière ou ces prières qui sont formulées. Seigneur, c'est à toi qu'elles sont adressées, parce que c'est toi qui, au travers de ce passage, nous rappelle que tu es bon, et que c'est toi qui manifestes une grâce dont nous ne pouvons rien faire pour mériter cela, Seigneur. Nous sommes simplement tributaires de cela, et nous voulons nous approcher maintenant devant ta table. Nous approcher devant toi, simplement tels que nous sommes, et ne plus vivre, Seigneur, à l'eau des barres. Nous ne voulons plus être dans cet endroit. Et dites-le ce matin, moi je quitte ce matin l'eau des barres, moi je vais à Jérusalem, je vais au lieu de l'abondance, je vais au lieu où tout peut basculer. Et ce lieu où tout peut basculer, aujourd'hui même, c'est la croix. C'est le Christ qui vous l'offre, c'est lui qui vous touche, c'est lui qui vous restaure. Qu'il vous bénisse et qu'il vous accompagne. Merci Seigneur de bénir, d'accompagner les uns et les autres. Merci de renouveler, merci de manifester une grâce, une compassion, une onction, quelque chose de neuf, comme tu l'as fait pour Méphibosheth. Je te remercie et je te bénis pour cela. Amen. Amen.